Gloire à Dieu. Alors moi, je remercie le Seigneur pour la relation particulière que Josette et moi, nous avons avec cette Église. C'est pas par, je dirais, parce que nous avons choisi, mais c'est clair que Dieu a tissé entre nous des liens qui sont au-delà des liens... j'irais naturel. Je crois que nous vivons dans un temps où nous devons savoir reconnaître et discerner quelles sont les relations amicales, mais qui ne vont pas plus loin que ça, et des relations que Dieu met en place et j'irais où on a une responsabilité d'entretenir cette relation et de faire très attention, parce que c'est quelque chose de précieux. La relation que nous avons avec André et Michel, et j'espère que ça va continuer avec notre cher Oscar et Paola, je crois. Ils sont... c'est du bon pain, ces gens-là. Hein. Donc on les sent bien, et je pense que la relation va continuer. Et on apprécie vraiment cela. Ça ne date pas de hier. Hein. Cette église-là, on peut dire qu'on a fait les tranchées ensemble. On est un peu comme des grands-parents hein, qui sont là, un peu loin, d'accord. Mais quand le petit, il tombe et puis il se fait mal au genou, voilà, on est là. Quand il y a une jambe cassée, on est là. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège pour nous que d'aider cette église, parce que nous croyons que c'est une église que Dieu bâtit et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Amen. Alors, ce matin, je voudrais qu'on prie pour que je puisse délivrer. Nous vivons dans des temps stratégiques et donc les messages doivent être, pointus et être ciblés par rapport au temps dans lequel nous vivons. Donc on peut pas simplement prêcher un message, il faut que ce soit approprié et dans le temps du Seigneur. Alors, priez avec moi que le Seigneur me donne l'onction pour délivrer ce qu'il veut que je délivre ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, celle que tu envoies et celle que ton Saint-Esprit est là pour confirmer. Seigneur, elle a été envoyée pour un but précis et Seigneur, nous croyons qu'elle ne retournera pas à toi sans avoir accompli totalement et exactement ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci. Merci, Seigneur, pour la liberté dans ce lieu. Tu dis que là où est ton esprit, il y a la liberté. Seigneur, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous soyons une bonne terre qui est prête à recevoir ta semence et aussi à porter du fruit pour ta gloire. Nous le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je crois que c'est demain que la France se déchaîne encore une fois. Alors, j'aimerais pouvoir dire que les chamboulements sont localisés, que ça ne concerne que la France. Je peux vous dire, il y a des chamboulements partout dans le monde. Hein. Bien sûr, c'est ça qui va attirer les médias demain. Mais partout il y a les chamboulements, peut-être ça se manifeste de manière différente, mais nous qui sommes aux États-Unis, je peux vous dire qu'il y a des chamboulements aujourd'hui que vraiment on n'avait pas prévu, on n'avait pas compté là-dessus, mais bon, on y est, hein, d'accord ? Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne choisit pas toujours les circonstances dans lesquelles nous sommes ? Amen ? Hein ? Je suis pas le seul, hein, je crois. Alors, il y a toutes sortes de chamboulements, mais ça ne change rien, ou en tous les cas, ça ne devrait rien changer à notre relation avec le Seigneur. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que nous, Aussi, nous devons être les mêmes, nous devons avoir la même relation avec lui hier, comme c'était hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne devrait pas changer. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas et nous ne devrions pas changer, si ce n'est pour devenir meilleurs. Amen. Alors, venez avec moi dans Jean 17 et verset 15. Jean 17 et verset 15. Alléluia. Combien d'entre vous, quelquefois les choses deviennent tellement difficiles et on se dit, mais où on va? Comment est-ce que le monde peut continuer dans cette direction-là? On a l'impression que tout va s'effondrer. Et on est dedans, on est pris dans on est comme sur un manège. Une fois que vous êtes dessus, vous pouvez plus redescendre, hein. Vous êtes attaché, une fois qu'il se met en route, c'est terminé. Josette, elle a voulu faire ça une fois. Elle a changé d'avis, mais le manège était déjà parti. Bon, ben, c'est terminé. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, hein. Et quelquefois, on est dans cette situation-là. Et puis, on dit, bon, écoutez, les gars, arrêtez le monde, hein, stoppez pour que je descende. Hello? Hein? Mais écoutez ce que Jésus dit. Donc, Jean 17 et verset 15. C'est Jésus qui dit, je ne te prie pas, il prie le Père, mais il dit, je ne te prie pas d'arrêter le monde et puis de les laisser sortir. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors, on peut lire ce passage et dire wow, « Wow, alors ça veut dire qu'on est coincé. On est là, on peut pas sortir de cet environnement. Moi, ce matin, je vais vous dire le contraire. Nous n'avons pas à subir, écoutez bien, nous n'avons pas à subir l'environnement dans lequel nous sommes. Je vais le redire encore une fois. Nous n'avons pas à subir l'environnement ou les circonstances dans lesquelles le monde se trouve. Que ce soit socialement, émotionnellement, économiquement, nous n'avons pas à subir ou nous conformer. D'ailleurs, Romains 12 le dit clairement. Ne vous conformez pas, ne vous soumettez pas au siècle présent ou à la façon de faire du monde. Nous avons de la part de Jésus une exemption. Amen. Oui, vous avez bien fait de venir. Tu as reçu de la part du Seigneur une exemption par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que Dieu n'a pas peur de nous laisser dans un environnement comme ça, parce qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Nous sommes ses enfants. Jamais, jamais, il ne nous laissera. Jamais, il ne nous abandonnera. Amen. Est-ce que nous le croyons, cela? Hein? Il suffit pas de connaître le verset, mais il faut le croire. Et surtout quand tout autour de nous nous dit le contraire. C'est là qu'il faut avoir les oreilles pour entendre que la vérité et non pas la réalité. Il y a une différence. La réalité, ouais, elle est ce qu'elle est. Mais la vérité gagne toujours et triomphe toujours de la réalité. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez Goshen? Qui est-ce qui se rappelle de Goshen dans la Bible? Allez, rassurez-moi. Hein. Bon, alors je vous rappelle. Goshen, c'était un endroit qui existait au temps où Jacob et tous les enfants d'Israël sont allés, parce qu'il y avait une famine en Israël, ils sont venus habiter à Goshen parce que Joseph était le premier ministre de l'Égypte. Et donc, on leur a trouvé cet endroit-là qui, en fait, a existé, qui se trouvait dans le delta du Nil, à l'est, la partie est du delta du Nil. Okay? Cet endroit avait pour réputation d'être un endroit propice pour garder des moutons. C'était vraiment l'idéal pour garder des moutons. Alors, les Égyptiens, ils n'ont pas donné ça comme ça. Ils ont décidé de donner ça aux Israélites parce qu'ils savaient qu'eux gardaient des troupeaux. Alors, ils ont mis là. Les Égyptiens avaient en horreur les moutons et surtout les bergers. Pour eux, un berger, c'était une abomination pour eux. Donc, ils les ont mis en écart. En fait, Goshen, le mot Goshen en hébreu, veut dire mis à part ou éloigné. Vous voyez, le plus loin possible des centres d'activité égyptiennes, on avait mis les Israélites là-bas. Alors, pendant toutes les plaies d'Égypte, alors bien sûr, ça se passait assez bien, tant qu'il y avait le même pharaon qui était donc le patron de Joseph, mais les choses après ont changé. Il y a quand même 400 ans qui sont passés. Hein. Et donc, mais ils étaient toujours à Goshen. Quand il y a eu les plaies d'Égypte, est-ce que vous vous souvenez? Qui est-ce qui se rappelle des plaies d'Égypte? C'était terrible. Alors, à un moment donné, Dieu a dit. Alors, on va voir ce passage, si vous voulez bien, qu'on trouve dans Exode 8 et verset 18. Exode 8 et verset 18. Alors, c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouche. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et dans la maison de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Je vais vous poser une question. Combien d'entre vous, vous avez essayé de dompter ou de dresser une mouche? Même pas la peine d'essayer. Une mouche, elle se pose là, vous tapez dessus, vous la manquez, mais dans les 10 secondes qui suivent, elle va se reposer au même endroit. Elle vient juste d'échapper à la mort, mais elle revient là. Têtue les mouches, hein. Impossible de dresser ou de dompter les mouches. Pourtant, dans cette situation-là, parce que c'est Dieu qui voulait faire une distinction entre son peuple et les Égyptiens. Et les mouches, je ne sais pas comment que ça s'est passé, je n'étais pas là, hein. Je ne connais pas la mentalité des mouches non plus. En tous les cas, moi je m'imagine ça, c'est qu'elles couvraient tout le sol, il y avait des mouches partout. Hein. C'est pas comme on était, hein, les mouches, il y en a une par-ci, une par-là. Non, là, il y avait des mouches partout. Mais quand elles ont progressé, elles ont avancé, elles ont couvert tout le pays d'Égypte, au moment où elles arrivent près de la ligne de démarcation, on va dire, du territoire de Goshen, ils ont mis les freins. On dit, hop, 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 on arrête tout. Hein. Là, on ne peut pas aller plus loin. On reste de ce côté-là, on ne va pas plus loin. Mais c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et tout ça, c'était quoi? C'était un signe pour montrer qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et l'Égypte qui représente le monde. Hein. D'accord? Il y a une typologie, là, que nous devons retenir. Alors, Goshen, en tant que territoire, autant qu'on sache, ça n'existe plus. Mais je vais vous dire... Goshen n'a pas mis la clé sous la porte. Goshen est une réalité spirituelle aujourd'hui autant qu'elle l'était à l'époque de l'Exode. Est-ce que tu connais la Goshen du Seigneur, là où Dieu veut faire une distinction, il veut faire la différence entre toi et le monde? Moi, j'ai bien aimé le témoignage de... C'est Léonie, c'est ça? Le médecin, je ne sais pas si le médecin, c'est un enfant de Dieu, j'en sais rien. Mais il a remarqué, il y a quelque chose de différent là. Il y a quelque chose de différent. Il a pris note. Est-ce que les gens avec lesquels nous travaillons, est-ce qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent avec vous? Est-ce que notre langage est différent? Est-ce que notre attitude est différente? Est-ce que notre comportement est différent de celui du monde? Est-ce que quand les choses vont mal, est-ce qu'on réagit de la même façon que le monde? En tous les cas, on devrait être différent. Amen? Amen. Alors, il va y avoir un temps, on va d'ailleurs voir ce passage en 25, Matthieu 25 et verset 1er. Matthieu 25 et verset 1er. Vous savez, un jour, il va y avoir une séparation. Et cette séparation, elle va se faire par le Seigneur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où nous devons être séparés. Je n'ai pas dit qu'il fallait aller à Sainte-Vendry et puis se mettre dans un monastère, hein, et s'isoler du monde. Dieu n'a jamais voulu que nous, ses enfants, nous soyons isolés par rapport au monde. Mais nous devons être séparés du monde. Moi, je suis effrayé de voir le nombre d'églises qui essayent de se conformer au monde, qui essayent d'imiter le monde pour attirer le monde. Moi, ça me fait peur. Non, nous devrions être différents. Je n'ai pas dit bizarre, j'ai dit différents. Quand la reine de Séba, elle a entendu parler de, on va dire, l'église du pasteur Salomon, elle a entendu parler. Mais quand elle arrive là, elle dit là, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Elle a vu des choses qu'elle n'avait jamais vues ailleurs. Quand les personnes nouvelles viennent dans nos églises, il faut qu'ils voient quelque chose de différent. La sœur à mon épouse, hein, Josette, qui est son aînée, elle est venue depuis, elle habite près du Mont-Saint-Michel là-bas. Elle est venue dimanche, pas dimanche dernier, le dimanche d'avant. Elle est venue depuis là-bas pour nous voir, surtout pour voir sa frangine. Très bien, sympathique. Mais, bien sûr, Josette l'invite à l'église où on était, en Normandie. Alors, elle est venue là. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a expérimenté pendant le week-end, elle est venue le dimanche, elle est restée le lundi. Et ce qu'elle a vu là, le mot qu'elle a utilisé, c'est qu'elle a été enchantée, mais pas modérément. Elle a dit, alors elle a vu qu'il y avait une telle différence dans cette église, l'amour qui lui a été manifesté dans cette église. Elle a dit, pourtant elle n'est pas encore convertie. Hein. Bon, elle est dans l'œil du cyclone déjà, hein. Mais c'est incroyable ce qu'elle a dit. Mais moi, je suis prêt à déménager. Hein. Si ça tenait qu'à elle déménagerait en Normandie pour faire partie de cette église. Ça devrait être. Nous devrions être différents à tel point que les gens disent. Je sais pas qu'est-ce qu'il est, quelle mouche les a piqués, mais en tout cas, ces gens-là, ils sont différents, ils sont meilleurs. Ils réagissent différemment, ils parlent différemment. Quand au travail, des personnes qui ont l'habitude de jurer, par exemple, ils sont près de la machine à café, hein, dans la salle de repos, et quand ils vous voient arriver, ils sont en train de raconter toutes sortes d'histoires qui ne sont pas très propres, ils devraient, leur réaction, ça, parce qu'ils savent qui vous êtes, vous savez, ils savent de quel pays vous venez, c'est-à-dire le royaume de Dieu, ils doivent se dire, hé les gars, il arrive ou elle arrive. Et leur langage devrait changer. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que vous êtes différents. Moi, ça me ferait peur. Si les gens continuent à dire n'importe quoi en ma présence, je m'inquiéterais si j'ai une relation avec eux. Hein ? Je ne parle pas de quelqu'un voilà, qu'ils ne connaissent pas. Mais s'ils me connaissent, ils devraient savoir qui je suis, ce en quoi je crois, ce que je condamne et ce que j'approuve. Ils devraient le savoir. Hello ! Ça s'appelle être chrétien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas chrétien du dimanche matin, parce que ça c'est facile, hein, mais d'être chrétien à tout moment de notre vie. Amen ? Amen. Alors, dans le Matthieu donc 25 et verset 32, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, je veux que vous notiez une chose, c'est que aucun de ces groupes ne savait pourquoi ils atterrissent d'un côté ou d'un autre. Ils ne savent pas. Jésus ne leur a pas donné l'explication. Il dit simplement, je fais une séparation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que cette séparation est faite, il n'y a aucun moyen de changer notre position. Une fois que Dieu a établi la séparation entre les brebis et les boucs, entre ceux qui sont à sa gauche et ceux qui sont à sa droite, je dirais c'est irrémédiable. Hello ? Il n'y a pas moyen de renégocier. « Oh, ben, je ne savais pas. » Non, terminé. Et donc, après, Jésus donne, bien sûr, l'explication. Le verset premier aussi du chapitre 25, il est dit, « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Dis-le avec moi, 10 vierges. Il y avait 10 vierges. « Qui, ayant pris leur lampe... » Alors, il y a 10 vierges, elles ont toutes pris leur lampe. On est d'accord ? Okay. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes sont allées à la rencontre de l'époux. Il n'y a aucune différence entre ces deux groupes. On est d'accord ? Et maintenant, on découvre que parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et là, on commence à voir une différence. Quelle est la différence ? Les folles, en prenant leur lampe, elles ont pris leur lampe, d'accord ? Mais en prenant leur lampe, elles ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Et comme l'époux tardait, encore une fois, toutes, pas 5, toutes, y compris les sages, se sont endormies. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors maintenant, toutes ces vierges, toutes les 10, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Par contre, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Moi, je suis étonné de voir le nombre de personnes qui étaient pentecôtisantes, on va dire. Hein ? C'est une église pentecôtisante ici, non ? Oui ? Encore ? C'est encore à la mode ici ? Ou est-ce qu'on a évolué, on a dépassé ce stade-là ? Non, on est pentecôtisant, pas parce qu'on fait partie d'un groupe religieux, mais c'est parce que Sans l'Esprit de Dieu aujourd'hui, moi je ne sais pas comment quelqu'un peut vivre une vraie vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, donc, celles qui étaient remplies de l'Esprit de Dieu, les vierges qui ont dit « Oh, c'est pas important, de toute façon, je suis né d'en haut, je suis sauvé, je vais au ciel, alléluia. C'est comme si j'achetais une Renault, et puis il y a des accessoires dont je peux me passer. » Non, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas un accessoire. C'est aussi important que les freins et le volant sur une voiture. Hello ? C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous remplit. C'est lui qui fait couler cette huile sur nous et en nous pour nous faire avancer. C'est pas une option. On va le dire ensemble. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une option. C'est pas une option. Alors, les vierges, là, elles ont réalisé, les vierges folles, elles ont dit, oh là là, oh, si on avait su, on aurait pris de l'huile, hein. On aurait tout fait pour rester rempli du Saint-Esprit. Écoutez, dans le monde où on vit aujourd'hui, même si aujourd'hui vous êtes rempli, d'ici mercredi, vous pouvez être pratiquement à sec avec tout ce qui se passe autour de nous. Il faut veiller à être rempli. Comment on fait ? Vous savez, vous ne pouvez pas la station totale et puis faire le plein, hein. Non, c'est si vous avez perdu l'habitude de prier en langue, recommencez à prier en langue. Et au début, le démarrage, il va peut-être être difficile. Mais vous allez voir, alors que vous le faites et que le Saint-Esprit commence à, agir en vous, vous allez voir, on s'édifie soi-même, on remplit notre réservoir spirituel, et puis on se dit, maintenant on est prêt à tout. On est prêt à tout. Rien ne peut arrêter un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, il ne faut surtout pas, si vous avez perdu l'habitude, ne soyez pas comme les vierges folles qui ont négligé leur parler en langue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a une séparation que Dieu est en train... Moi, je crois que Dieu est en train de le faire. Alors, il faut savoir que en Goshen, au moment de l'Exode, il y avait bien sûr Aaron et Moïse qui étaient convaincus. Ils savaient à qui ils appartenaient. J'aime ce que Paul il dit... Je sais en qui j'ai cru. Eux, ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient à qui ils appartenaient. Eux, la séparation était faite avec l'Égypte, hein, et donc leur méthode, leur fonctionnement n'était pas du tout conforme à celui de leur environnement. Mais il y avait des gens qui habitaient à Goshen, comme aujourd'hui il y a des gens qui sont dans l'Église. Mais dans leur cœur, il y a un partage. Il y a une division dans leur cœur. Nous ne pouvons pas être amis du monde et être enfants de Dieu en même temps. Pas plus qu'on ne peut servir maman et servir Dieu en même temps. Les deux sont irréconciliables. Mais on sait que parmi ceux qui vivaient à Goshen, il y en avait qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'Exode. Ils ne voulaient pas partir. D'ailleurs, on les retrouve plus tard quand ils disent « Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu nous as fait sortir d'Égypte. C'est vrai qu'on était esclaves. C'est vrai. Mais on avait les poireaux. Oh, puis on avait les oignons. On avait de la viande. On avait... Voilà. Les Égyptiens, le monde prenait soin de nous. Hello ? La raison pour laquelle ils ont passé 40 ans dans le désert, c'était quoi ? C'est que, à cause des circonstances dans lesquelles ils étaient, ils ont limité le sein d'Israël. Ils ont passé 40 ans dans le désert. savez ce qui les embêtait? C'est que la manne que Dieu pourvoyait, elle tombait le matin, disons le, on va dire le mardi, ça tombait le mardi matin, il fallait que ce soit mangé d'ici mardi soir. Ça veut dire que tous les jours, ils devaient compter sur la provision de Dieu pour le lendemain. S'ils essayaient de garder de la manne du mardi jusqu'au mercredi, elle était immangeable. Donc, Dieu fait bien les choses. Il voulait que leur dépendance soit dans leur Seigneur. Et eux, leur référence de provision, c'était quoi? C'était encore l'Égypte. Alors que Dieu les a fait sortir d'une manière miraculeuse. Mais leur référence par rapport à leur provision, c'était le monde, c'était l'Égypte. Qui est la source de ta provision? Aujourd'hui, il faut se poser la question. Hein. C'est pas le chèque que vous recevez par la sécurité sociale hein, qui est votre source. C'est même pas le chèque que vous donne votre patron parce que vous avez bien travaillé. Mon Dieu, Philippiens, mon Dieu, c'est Paul qui le dit, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de crise économique dans le ciel? Ou vous croyez que le Seigneur, il a du mal à payer ses factures? Est-ce que vous croyez que le compte en banque céleste est dans le rouge? Pas du tout. C'est pour ça que Jésus dit, là où est ton trésor, là où tu mets ta confiance, là où tu reconnais que c'est ta source, si ton trésor, il est là, ton cœur va être là, et maintenant tu fonctionnes selon le système de Goshen, le système du royaume, où ni la rouille, ni l'inflation, ni la guerre en Ukraine, ni quoi que ce soit n'a un effet sur ça. Nous, on vit comme ça depuis 1987, où on ne compte pas. Il y a un pasteur, un jour, il me dit, pour taquiner, hein, il dit, tu sais, on te soutient depuis tant d'années, j'ai décidé, on va plus te soutenir, ton ministère. Alors, il croyait que j'allais paniquer. Je lui ai dit, écoute, vas-y, si Dieu te demande, hein, si Dieu te demande d'arrêter, ça ne changera rien dans notre relation, parce que nous, on ne compte pas sur nos partenaires hein, pour vivre. C'est Dieu qui est notre source. Et je vous dis, dans les temps où nous vivons, et surtout là vers quoi nous allons, au niveau économique, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, hein, mais le dollar, l'euro, la livre sterling, tout ça, avant le retour du Seigneur, hein, on pourra utiliser les billets de banque comme pour jouer au Monopoly, c'est à peu près tout. Hein. Vous irez au comptoir d'un magasin, vous présentez un 20 euros et vous voulez que je fasse quoi avec ça? Parce que ce n'aura plus coût, hein. Ils travaillent très dur aujourd'hui, les gouvernements du monde, y compris le vôtre. Vous croyez qu'il a Macron, il est allé en Chine pour manger du riz cantonais? Ah, c'est pour mettre en place un système monétaire virtuel avec comme base l'économie chinoise. Ça va sortir, hein? Ça va sortir dans les salles près de chez vous. Mais il vaut mieux être prêt, hein? Il vaut mieux être prêt et de savoir que tout ce sur quoi nous nous sommes reposés jusqu'à maintenant, les choses, les unes après les autres, elles commencent à... Hein? C'est comme ça a été dit dans la Bible que Israël, il fallait qu'elle cesse de se reposer sur l'Égypte parce que c'était un pieu pointu et qu'il allait leur traverser la main. On ne peut pas s'appuyer sur le monde. Hein? Hello? On ne peut pas s'appuyer sur le monde. Il vaut mieux qu'on fasse un choix décisif. Hein? Alors, dans le pays de Goshen, les Israélites ne devaient pas se conformer à l'Égypte. 1 Corinthiens 5 et verset 9. 1 Corinthiens 5 et verset 9. Alléluia. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les travisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Vous voyez ? Dieu ne nous demande pas de nous séparer du monde, mais que nous vivions une vie distincte du monde, de vivre autrement, de vivre comme un enfant de Dieu. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Vous savez, ça c'est une séparation qui doit être notre initiative. Ne pas avoir l'attitude, mais j'ai l'esprit large. Je prends les gens comme ils sont. Oui, on prend les gens comme ils sont. Hein. La formule McDonald's, c'est très bien. Venez comme vous êtes. C'est très bien, ça fonctionne à merveille pour l'Église. Le problème, c'est que quelquefois dans l'Église, on dit « Venez comme vous êtes et on vous garantit qu'on ne fera aucune tentative de vous changer. » Ça veut dire que, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Écoutez, je ne sais pas si c'est enregistré ce matin. C'est enregistré. Donc, il faut que je fasse attention. Bon, alors, on a tous nos préférences. Il y a des gens, on les voit, on dit, oh, c'est formidable. Il y en a d'autres, peut-être à cause de leur apparence, peut-être à cause de leur façon de vivre, on n'est pas trop chaud pour les accueillir. Mais je dirais, il faut accueillir tout le monde. Il faut accueillir tout le monde. Si quelqu'un vient habillé d'une certaine façon, qui est un peu les catalogues, hein, on dit, wow, ça c'est pas des gens de chez nous, ça. Hein. Mais on doit les accueillir. Il faut les accueillir. Par contre, dès l'instant où ils viennent au milieu de nous, on doit avoir une influence positive sur eux, pour déteindre sur eux, pour que voilà, ils puissent arriver au salut. Nous, quand on est arrivé dans l'église, une église, nous, on était du milieu catholique, vous voyez, très... à genoux, debout. Il ne fallait surtout rien dire. On arrive dans une église, mais on s'est dit, ça y est, ça c'est un asile de fous, mais ils font quoi? Non, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'ils chantaient. Il louait le Seigneur, il levait les mains, il y en a même qui dansaient. Oh là là ! Où on va ? Mais au bout d'un certain temps, bon, ça a pris quand même quelques semaines. Hein. Et au début, je dis toujours, on n'osait pas, nous, faire lever les mains. Hein. Alors, on faisait le pingouin. Alléluia, alléluia. Mais au bout de quelques mois, hein, on était aussi fous qu'eux. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déteint sur nous. Ils ne nous ont pas laissés comme on était. Amen. Alors, venez comme vous êtes, mais on vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. D'accord ? Amen. Gloire à Dieu. Jacques 4 et verset 2 à 4. Alléluia. Est-ce que vous recevez quelque chose ce matin ? Une question d'être pas différent, pas d'être bizarre, mais d'être... que les gens puissent faire une distinction, qu'ils sachent, mais Ah, là, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Et que nous ayons une influence positive sur ceux que nous rencontrons. Donc Jacques 4, et à partir du verset 2, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas? Écoutez, c'est le passage qu'il faut vraiment retenir. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Une fois que on a choisi le royaume de Dieu et que on est déterminé à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6, 33, on a mis les mains sur la charrue, hein. On ne peut pas retourner. On ne peut pas retourner et regretter les choses du monde. Moi, je regrette, mais alors, oh, il y avait des choses sympas dans le monde, mais ce ne sont pas des choses qui édifient, ce ne sont pas des choses qui me gardent dans la présence de Dieu. Alors, moi, je vous avoue, la musique des années 60, de temps en temps, je l'écoute encore. J'aimais bien cette musique-là, de cette époque, hein. Mais quand je l'écoute, je me dis, faut pas que j'écoute ça trop longtemps. Parce que ça me rappelle des situations, ma condition spirituelle de l'époque. Je dis, ça sent mauvais, ça. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on a fait dans le passé dont on n'est pas fier, on ne retourne pas, hein. Et toutes les choses qui nous rappellent cela, il vaut mieux les mettre de côté. C'est le moment d'être séparé, d'être distinct, d'être, en anglais on dit peculiar, où tu es, elle est partie, hein? Pas, oui, particulier. Encore une fois, c'est pas bizarre. Mais particulier, c'est-à-dire que quelque chose devrait nous distinguer par rapport, par contraste. Vous voyez, dans Ésaïe 60, il est dit que les ténèbres vont couvrir la terre, mais sur nous, la lumière se lève. Amen. Est-ce que nous resplendissons la lumière de Jésus? Est-ce que les gens ressentent, hein, l'amour de Dieu? Léonie, est-ce que les gens savent, oh, c'est pas simplement quelqu'un qui a le cœur généreux, mais pourquoi est-ce qu'elle a le cœur généreux? Pourquoi? Parce que elle a été touchée par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce matin, je voudrais prier pour vous et si quelque part dans le message vous avez senti que, vous savez, la parole, c'est la vérité. On peut pas changer cette réalité. Mais si vous sentez qu'il y a des choses qui vous n'êtes pas tout à fait d'accord, ou alors vous dites, ouh, ça c'est un peu difficile. La grâce de Dieu est suffisante. Si vous reconnaissez, comme le fils prodigue qui apparemment, ça ne le dérangeait pas d'être éloigné de la maison du Père. Jusqu'à ce qu'il ait une révélation, il s'est dit, mais il a dit qu'il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il a finalement réfléchi, il a dit, mais je fais quoi là? Si vous réalisez qu'il y a des choses qui doivent être rectifiées, corrigées, aménagées, moi ce matin, je veux vraiment prier pour vous. Parce que, écoutez, les temps sont courts aujourd'hui. S'il y a des... Et la plus grande décision que vous puissiez faire, si vous ne l'avez pas encore prise, c'est de donner votre cœur à Jésus. Hein. Ne comptez pas sur « Oh, oui, j'ai jamais eu de... jamais décidé, mais je le ferai un jour. » Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. On va baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette église qui t'est chère, cette église que tu protèges, cette église que tu continues à guider par ton esprit. Seigneur, merci pour tous ces hommes et ces femmes, ceux qui sont là depuis longtemps, mais aussi ceux qui viennent tout juste de se joindre à cette famille. Seigneur, s'il y a un homme, une femme, un adolescent dans cette salle qui veut bien dire « Je n'ai jamais pris une décision pour le Seigneur. Quelque part, je suis encore tiraillé entre le monde et le service de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour. Maintenant est le temps. » Alors, personne ne regarde autour de soi, mais si tu es là ce matin et tu dis « Moi, je crois que c'est le temps pour moi de rencontrer le Seigneur. » Je voudrais que, sans que personne ne regarde, tu lèves simplement ta main pour dire au Seigneur « Bien, moi, je veux te recevoir ce matin. » Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ou peut-être tu es comme ces vierges, parmi ces vierges folles, et tu dis « Oui, j'étais bouillant pour le Seigneur, mais... quelque chose s'est passé, peut-être le temps, peut-être les circonstances, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais aussi que tu lèves ta main. Alléluia. Oui, je vois vos mains. Ouais. On va tous se lever. On va tous se lever.